Cette table ronde est consacrée à un thème assez passionnant et original, qu'on ne traite pas si souvent, l'expérience qui consiste à écrire dans les pas d'un autre. Je vais vous faire un tout petit historique et puis les intéressés en parleront bien mieux que moi, mais pour qu'on situe tout de suite quelle est l'aventure dont il est question. En 1993, Pierre Bordage apparaît dans le paysage de la science-fiction francophone d'une manière immédiatement très remarquée avec sa trilogie Les Guerriers du Silence. Alors Les Guerriers du Silence, le premier volume sort chez La Talente en 1993, le second Terra Mater sort en 1994 et il est suivi de La Citadelle Hipponeros en 1995. La trilogie est tout de suite extrêmement remarquée, elle rafle immédiatement trois prix majeurs du milieu de la science-fiction, le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Julia Verlanger, le prix Cosmos 2000. Les Guerriers du Silence se vendent à plus de 50 000 exemplaires et ils marquent des générations de lecteurs. On peut vraiment dire qu'ils bouleversent le paysage francophone. Le fait qu'ils marquent des générations de lecteurs, on en a des preuves tangibles actuellement. En tout cas, en avril 2012, donc le mois dernier, Johan Bergeau publie chez Mnemos le chant premier. Je devrais peut-être vous les montrer. Si tu montres. Voilà donc Les Guerriers du Silence chez La Talente. Ils tiennent verticalement. Voilà. Donc Johan Bergeau publie le chant premier qui se situe dans l'univers des Guerriers du Silence. Et c'est l'occasion ici, maintenant, de leur faire raconter l'aventure qu'ils ont vécue l'un et l'autre, parce qu'on imagine bien que des deux côtés, il y a des tas de choses passionnantes à raconter, en tout cas qu'on aimerait connaître. Je crois que je vais commencer par interroger Pierre, et puis chronologiquement c'est logique, c'est lui qui a posé la première pierre. Et Pierre...
Je vais dire avant, si tu veux, ce sera fait.
Donc, Pierre, tu as écrit ta première grande œuvre majeure en 1993. Ce serait intéressant que tu nous dises avec le recul ce qu'elle représente pour toi maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours un univers qui est vivant pour toi? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te concerne, que tu pourrais éventuellement ressusciter? Ou est-ce que tu considères que la page est tournée et que ça fait partie d'une période de ta vie qui ne te concerne plus de la même manière et dont tu n'es plus aussi proche? Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose là-dessus?
Oui, déjà je considère que la page est tournée. Parce que je ne voulais pas tomber dans ce piège qui est de faire des univers à longue série. Ça ne m'intéressait pas trop. Et je pense qu'il est très important de laisser une grande part d'imaginaire au lecteur à la fin d'un cycle. Donc c'est pour ça que j'ai voulu terminer le cycle et que pour moi c'était terminé, je ne voulais plus revenir dedans. Alors, les lecteurs ont souvent demandé quand vous faites le tome 4, le tome 5 et tout ça. Je dis non, parce que voilà, pour moi, l'histoire est finie. Néanmoins, évidemment, c'est mon premier livre, donc c'est un livre fondateur et c'est un livre qui vit toujours en moi. Et d'ailleurs, à la lecture du livre de Johan, c'était marrant de voir comment ça a ressuscité tout cet univers qui avait été mis en place longtemps, parce qu'il a été publié en 93, mais écrit en 85, 86. Ce qui fait qu'il a un certain nombre d'années. Comment ça fait d'ailleurs? Ça fait
beaucoup.
Oui, beaucoup. Voilà, ça, c'est le mot, c'est beaucoup. Il m'a fallu du temps pour publier parce que je suis arrivé, tu dis que ça a bouleversé le paysage francophone français.
Si, c'est sûr.
Oui, mais je ne me suis rendu compte de rien parce que je suis arrivé avec un gros bouquin de 600 pages, c'est le premier tome de 700 pages et aucun éditeur n'était à cette époque en mesure de prendre ce genre de livre. Donc il m'a fallu patienter 8 ans. Pour trouver la Talente. La Talente qui était un éditeur qui n'éditait jusqu'alors en imaginaire que des auteurs anglo-saxons. Et donc je suis le premier auteur francophone dans le domaine de l'imaginaire. Je me souviens que en fait, l'histoire s'est faite par Patrick Couton, traducteur à La Talente, dont j'ai découvert qu'il traduisait le bouquin de Card, qui est un de mes auteurs favoris à La Talente. Et que l'anecdote veut aussi que Pierre lui ait demandé mon âge. Pierre Michaud est le directeur de La Talente et que Patrick a dit ça va, il est jeune, c'est bon. Donc, ça veut dire que j'aurai un avenir quelque part. Donc, si j'avais eu 85 ans, je ne crois pas que ce livre aurait un jour. Donc voilà, mais c'est toute une aventure, c'est mon premier livre vraiment, c'est mon deuxième en réalité au niveau de l'écriture, mais mon premier livre vraiment achevé. Toute l'aventure pour le faire éditer, ça a été très très long. Quand Pierre Michaud a décidé de publier, je lui ai dit d'accord, mais à condition que je l'écrive entièrement, parce qu'il a écrit il y a 7-8 ans avant et que je ne vois que des défauts, donc il m'a dit d'accord, pas de problème. J'ai entièrement réécrit le livre. Et donc, en même temps, c'est la pierre fondatrice, parce que ça m'a lancé finalement dans la carrière. Donc, il y a une relation très particulière avec ce livre, une relation qui jamais ne s'effacera, avec aucun des livres d'ailleurs, mais celle-là est particulièrement forte, parce que c'est le premier, tout simplement. Et que j'ai écrit, et c'est un truc qui est très très difficile à retrouver après, c'est écrire avec une jubilation sans borne, quoi. C'est-à-dire écrire sans se poser de questions, alors que les questions sont venues après, je me suis beaucoup posé de questions sur le métier, alors que ce cycle-là, je l'ai fait avec une innocence totale. Il a été publié avec une innocence totale de la part de Pierre Michaud, qui n'a pas tenu compte du tout de ce qui se faisait dans le paysage éditorial à cette époque-là. Donc c'est une conjonction de deux innocences, mais je pense qu'il a ce mérite-là, il y avait une sorte de fraîcheur et de dynamisme. Donc je me suis rendu compte après que c'était pas toujours évident de garder en tant qu'auteur professionnel qui s'installe dans l'écriture tous les jours, etc. Où il y a un métier qui s'installe et retrouver cette jubilation, c'est pas évident. Enfin bon, bref, c'est une belle aventure. Je suis très content qu'elle se soit achevée. J'ai poussé un grand coup de soulagement comme à la fin de chacun de mes cycles parce que c'est voilà, je suis content de les achever les cycles. Je suis très content aussi que le site soit ouvert par quelqu'un d'autre, je trouve ça super, j'adore cette idée d'ouvrir. Je considère que mes univers ne m'appartiennent pas, ça ne veut pas dire que je ne touche pas les droits d'auteur, assurez-vous, il ne faut pas tout confondre non plus. Ce qui veut dire que un univers il est posé dans le domaine public et celui qui a envie de s'en emparer, je trouve ça très bien de le laisser s'en emparer pour le faire revivre à sa façon, en reprenant des éléments et tout en y ajoutant sa propre patte. Un exercice que j'ai pratiqué moi-même avec le livre Atlantis, qui était un livre tiré d'un jeu vidéo, dans lequel un projet pour lequel j'ai rencontré le scénariste du jeu vidéo, qui m'a expliqué quelles étaient ses frustrations liées aux contraintes techniques du jeu. Vous ne pouvez pas aller n'importe où, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Et moi, je lui dis, mais moi, je suis auteur, et je vais dire n'importe quoi, je vais aller n'importe où. Parce que ça ne coûte rien, gros avantage par rapport au jeu vidéo. Pas d'investissement, le mot coûte zéro pour l'instant. Et donc, pour l'instant, parce qu'il y a bien un mec qui aura l'idée de déposer tous les mots, non, ça ne serait pas vrai. J'ai adoré cette expérience de m'inscrire dans l'univers de quelqu'un d'autre, de m'en emparer à ma façon et d'y réinjecter mon propre univers. Donc je trouve ça très très bien cette passerelle entre différentes générations d'auteurs.
Donc tu es en train de nous dire que tu imaginais déjà que ce qui s'est produit 27 ans après, j'ai réussi dans l'intervalle à faire le compte. Oui ça doit être ça. En tout cas, tu imaginais déjà que ça pourrait se produire.
Non, parce que en aucun cas on peut avoir la prétention de dire qu'un univers va inspirer un autre auteur. Ça ne nous appartient pas, mais je n'ai jamais été fermé à cette idée-là.
L'idée ne te choquait pas.
Non.
Mais on va se tourner vers Johan, parce que je disais tout à l'heure que des générations de lecteurs avaient été bouleversées par ce roman. Moi j'en connais beaucoup qui considèrent que l'ouvrage a profondément marqué leur vie, peut-être même changé leur vie quelquefois. Enfin, il y a vraiment... Des ressentis.
C'est pour ça qu'il me verse la moitié de leur salaire chaque mois.
Oui, qui t'offre quelques bières quand tu passes au bar. Mais on est sûr que Johan a ressenti cette émotion. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, à l'époque où tu as lu ce roman, tu l'as peut-être lu quand il est sorti, en 93-94, ou plus tard, enfin tu vas nous dire... Quelles sont tes premières réactions de lecteur? Qu'est-ce que tu éprouves grâce à cet univers?
Oui, ça a été le déclic. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai lu Les Guerriers du Silence et j'ai dévoré toute la trilogie d'une seule traite, je ne suis peut-être pas un des tout premiers lecteurs des Guerriers du Silence, mais ça a causé une alchimie en mon esprit et ça m'a fait envisager la possibilité d'écrire... une science-fiction qui soit liée à une quête initiatique. C'est-à-dire que je n'avais jamais trouvé dans la science-fiction un tel développement, une telle façon d'aborder certains thèmes spirituels, religieux, une critique sociale. Enfin, il y avait tout un tas de façons de faire que j'avais jamais trouvé chez aucun des auteurs. Et j'ai eu le coup de cœur pour Lord of the Pierre Bordage, non seulement pour le style, mais aussi pour l'aventure, l'exotisme. C'était une alchimie, il y avait vraiment tous les éléments dont je rêvais de trouver dans le même creuset. Il y avait vraiment toutes les fibres qui me plaisent dans la science-fiction, mais aussi ce côté spirituel. Ce côté analyse de la société, ce côté analyse de la politique, ce côté très particulier qu'on retrouve après dans toute l'œuvre de Pierre, hein, décliné sous différents univers, différents supports, différentes teintes. Bon, là, c'est le fan qui parle, hein, je vous le dis, je continue à lire. Dans le train, j'étais en train de lire le cinquième tome du Pancard, hein, là, je l'ai fini. Voilà. Et j'ai tout le long de ma vie de lecteur, j'ai suivi Pierre Bordage avec le même plaisir. Et toujours avec un... retrouvant à chaque fois de façon différente le même émerveillement. Par rapport à, par exemple, la subtilité de décrire les émotions de l'être humain, aussi bien ses tourments que la pureté aussi. C'est quelqu'un qui sait aller montrer les enfers dans lesquels on peut s'enfermer, comme il va nous démontrer qu'on est capable d'une immense pureté, d'avoir des rapports fraternels ou des relations amoureuses passionnées. Il montre tout le spectre des émotions. Et ça a été vraiment... Le déclencheur qui m'a dit, tiens, mais écrire, oui, c'est fascinant. Et j'ai eu envie d'écrire à partir du moment où j'ai lu Les Guerriers du Silence. Donc j'ai commencé à écrire dans mon coin. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'en parle à Pierre Bordage, mais je ne sais pas comment. Et un de mes amis qui me montre sur un site internet, mais là, on peut lui écrire un mail. Et donc, je réfléchis pendant des heures à comment je pourrais attirer son attention le plus possible dans un mail très concentré. Et ça a marché, je suis entré en contact avec Pierre Bordage à cette époque-là. J'étais en train d'écrire mon premier livre et il fallait que je lui fasse partager parce que ce livre est très différent des Guerriers du Silence parce que ce n'est pas le champ premier que j'écrivais, hein. C'était un livre qui...
C'est
Hank. Oui, Hank, qui est un univers qui n'a rien à voir au niveau des thématiques mais qui a le même fond. C'est-à-dire la même ligne d'orientation intérieure, je dirais, dans les thématiques profondes. Pas dans le décor, pas dans... Je dirais que j'ai essayé de développer mon savoir-faire à cette époque-là. Et bon, donc j'ai cherché à trouver un éditeur pendant des années, c'était très difficile. Et je restais en contact avec Pierre régulièrement. Et un jour, je vais le voir à Nantes pour un festival éditorial. Je discute avec lui et vois que j'ai une connaissance assez approfondie de ces mondes. Et je lui dis, mon rêve, ce serait d'écrire avec toi. Et donc, il est un peu surpris, mais vu la connaissance que j'avais de ces mondes, tout ça, il me dit, pourquoi pas, d'accord, fais-moi un début, et puis on fera quelque chose. Seulement, Pierre Bordage, vous imaginez bien, il a un emploi du temps terrible. Donc, pendant des années, on essayait de démarrer, mais on n'y arrivait pas. Et à un moment où je traversais une crise particulièrement difficile, parce que j'avais plein de problèmes sur plein de champs, je lui dis, donne-moi un peu d'espoir, si je peux pas écrire avec toi, est-ce que je pourrais prolonger ton imaginaire d'une manière ou d'une autre? Et je lui dis, j'aimerais écrire la suite d'une de tes histoires, parce que je suis amoureux de toutes tes histoires, enfin la plupart, hein, j'ai pas tout lu de la bibliographie, mais j'en ai lu une grande, grande partie, c'est qu'il est prolixe, hein.
Je vais juste dire à propos de prolixité de Pierre et pourquoi on ne va pas ici présenter son œuvre de manière approfondie. J'ai quand même, vous l'avez peut-être fait aussi, été explorer le site des Imaginales et la présentation des auteurs et j'ai renoncé à imprimer celle de Pierre quand j'ai vu qu'elle faisait 48 pages. Oui. Donc, je te repasserai la parole.
Oui,
tout
ça
suite,
marche.
Mais tu laisses entendre quelque chose sur lequel on pourrait t'interroger plus précisément. Tu dis que tu as suivi avec beaucoup d'intérêt toute l'œuvre de Pierre sur la durée, les différents univers que Pierre a construits. Tu nous dis que tu as accroché à chacun d'entre eux. Est-ce que ça veut dire que tu es prêt à reprendre chacun des cycles, chacun des univers et à les exploiter les uns après les autres ?
Non, 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 non. Je pense que ce serait trop...
Marcher
trop dans les pas de Pierre. Déjà, là, il m'a fait l'honneur de me laisser travailler dans l'univers des Guerriers du Silence, qui est déjà l'univers fondateur de son, comme il l'expliquait lui-même, hein, de sa carrière. Donc, ça paraissait une évidence, puisque ça a été les Guerriers du Silence qui m'ont donné le déclic. Donc, tout ça, c'est vrai que je pourrais être capable d'imaginer une suite aux Derniers Hommes. Je pourrais être capable de dire le Panka, bah, pourquoi pas, mais... Je pense que ce serait un petit peu exagéré, et puis ce serait dommage que je ne puisse pas exploiter mes propres univers et ma propre imagination, même si je pense que ma propre imagination est présente dans cette approche de la suite des Guerriers du Silence, mais je pense qu'il ne faut pas trop pousser. Peut-être qu'un autre auteur aura le déclic un jour et aura envie de prolonger un de tes univers.
Ça arrive sur les gens qui font des jeux de rôle ? Qui joue dans mes univers, donc ils me signalent. Voilà, on utilise votre décor pour le jeu, on utilise votre univers. Donc... Moi je trouve ça sympa, moi je suis prêt à partager tous les univers. Bon, les éditeurs sont pas toujours d'accord parce qu'ils veulent des droits. Mais, mais sinon, non, je suis tout à fait ouvert à partager l'univers. Et Yohan a entièrement raison, je pense que je suis très content que son livre soit publié, que bon, son travail d'auteur ait été récompensé de la sorte. Et que je pense qu'il sera très, très important pour lui aussi de créer, de forger, je pense qu'il en est capable, ses propres univers, et de décoller, d'avoir sa voix. Déjà, je trouve que ta voix est très marquée déjà dans le livre, même si tu reprends des éléments des guerriers, mais je pense qu'effectivement, il faut que tu ailles dans ta propre veine à un moment, c'est sûr.
Moi, j'aimerais bien vous poser des questions indiscrètes, tous les deux, sur la manière dont s'est nouée la prise de contact entre un lecteur passionné et un auteur reconnu. C'est pas forcément facile, ni de la part de l'un ni de la part de l'autre, d'ailleurs, de trouver comment va s'engager la discussion. Et puis, apparemment, vous avez envisagé une collaboration, donc vous êtes allé assez loin dans l'envie de faire des choses ensemble. Vous avez envie de nous raconter l'un et l'autre, et pas forcément de la même manière, d'ailleurs, comment s'est passée cette prise de contact
Et moi, j'ai vu arriver Yohan jour, quoi, par mail, et puis après, on s'est rencontrés. Et c'est vrai que j'étais intéressé de travailler en collaboration, mais toutes les tentatives de collaboration que j'ai faites se sont soldées par des retards considérables qu'on finit par des échecs, du coup. Parce que c'est simplement, effectivement, j'ai un emploi de temps qui est très chargé, j'ai beaucoup de livres à écrire, et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'astreindre à la discipline qui est l'écriture à deux. Et à un moment, on a continué à converser, à entretenir une correspondance, et à un moment, effectivement, il m'a dit est-ce que je pourrais prolonger ou faire un livre dans l'univers des Guerriers du Silence. J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai suivi un petit peu à.
Bah oui, il m'a un peu mis à l'épreuve quand même, il m'a demandé fais-moi 5 chapitres convaincants pour que je te donne le feu vert. Et j'ai réussi. J'ai eu le feu vert.
Il y a eu un test.
Il y a eu un test.
C'était pas vraiment un test parce que je pense que je suis personne pour exiger des tests. C'est simplement que c'était juste une façon pour lui de montrer sa détermination et le fait que ce soit pas des paroles en l'air et que moi j'ai vraiment aucun inconvénient qu'on travaille avec ce que j'ai posé comme univers, mais après faut aussi s'y adonner, quoi. Donc l'écriture, c'est un travail exigeant. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire et qui se retrouvent coincés à la première difficulté. J'ai connu beaucoup de gens qui disaient j'écris et je disais mais vous êtes allé au bout d'un projet ? Ils me disaient bah non, c'est difficile. Bah oui, c'est ça qui est difficile, c'est d'aller au bout d'un projet. Donc il m'a montré qu'il pouvait le faire. Et donc j'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il aille au bout de son projet parce qu'il était déjà au bout d'un projet qui s'appelle Ankh, en 2 volumes en plus. Non ?
Oui.
Et donc, je savais qu'il était capable d'aller jusqu'au bout du truc. Bon, voilà, après, il fallait amorcer la pompe, et c'était une façon d'amorcer la pompe, tout simplement.
Alors, parlons un peu de l'univers de Yohan, qui vient du tien, mais qui n'est évidemment pas le même que le tien tout à fait. Qu'est-ce que tu éprouves par rapport à cet univers? Est-ce que tu le reconnais? Et je vais aller plus loin. Si tu avais eu l'impression que les bases fondamentales du rapport entre le héros et le monde hostile qui l'entoure, la manière dont se passent les rencontres, le type d'humanité que tu insuffles dans tes romans, si tu avais eu l'impression que Johan était parti sur un principe très différent, un rapport au monde très différent, une sorte de trahison quelque part, ce qui n'aurait pas voulu dire que le roman était mauvais. Mais est-ce que tu te serais senti dépossédé? Comment aurais-tu réagi?
Non. De toute façon, c'est obligé qu'il y ait une trahison, c'est tout à fait normal. C'est comme une adaptation. L'adaptation exige une trahison, on est obligé. Donc, il a sa musique intérieure qui vient se superposer à la mienne, donc forcément, ça va être quelque chose de différent. Il faut accepter ce principe-là. Je n'ai pas tout à fait fini le livre parce que à cause d'un déménagement et de changement d'adresse, j'ai reçu assez tard et j'ai pas pu. Je suis rendu à peu près à la moitié. Et je suis assez stupéfait de voir la façon dont il a récupéré les éléments des liens du silence jusqu'au corvin dans Julien qui est venu apparaît un moment et c'est un truc, j'avais complètement oublié le corvin dans Julien. Il y avait ça aussi. À chaque fois, je me dis, tiens, il y avait ça aussi, et puis ça. Et il s'est disséminé dans son récit de façon assez adroite qui fait que. On a l'impression que c'est lui-même qui a posé un univers, quoi. C'est ça qui est très marrant. Enfin, c'est assez une sorte de couche sédimentaire qui s'est posée par-dessus, dont il a extrait ce qui l'intéressait, et tout en créant son univers. Donc ça, c'est assez fascinant. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a rouvert la porte, moi, pour moi, de l'univers, et ça m'a rappelé plein de trucs parce qu'il y a beaucoup de personnages de la première trilogie sont devenus des légendes, des références, et donc ça crée un effet vertige assez impressionnant. Il y a vraiment, bon, c'est un petit peu le principe de la science-fiction. C'est la science-fiction, c'est un genre qui engendre le vertige quand on lit, quand on est tout à fait par quelque chose. Et là, d'avoir le vertige par rapport à sa propre œuvre, ça fait un truc assez bizarre, quoi. La façon dont il a récupéré les choses, je peux pas m'en empêcher de dire tiens, il a mis ça là et tout. Et en même temps, c'est quelque chose de très personnel. Je pense qu'il a développé quelque chose par rapport à ce que je faisais, qui est le rapport à la matière. Je pense qu'il est différent. Il est beaucoup plus poussé que le mien. Le rapport à l'intériorité, plus poussé que le mien. C'est comme s'il avait développé. Entre autres par la science indique et puis la magie, l'autre magie kémienne,
une nouvelle magie.
Ouais, qu'il avait poussé les principes qui avaient été posés dans les guerres du silence et que lui, tu les avais exploités. Enfin, j'ai trouvé ça, quoi, vraiment. Et donc, tu as un rapport à la matière différent qui est beaucoup plus proche de la magie finalement que de la science-fiction. D'ailleurs, tu l'appelles carrément de la magie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était au bout d'un processus qui m'intéresse moi, que je travaille dans la plupart de mes ouvrages, qui est le rapport à la matière, et le rapport subjectif à la matière. On va parler ce midi au dîner des jeunes auteurs. Je cherche toujours le rapport subjectif à la matière. La matière en tant que matière, un rapport objectif à la matière, c'est-à-dire la matière nous a engendré, la matière existe, machin, ça ne m'intéresse vraiment pas, quoi. S'il y a que ça, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment nous, on peut interagir sur la matière. Et je pense que tu as vraiment poussé ce processus-là beaucoup plus loin que moi.
L'œuvre de Pierre Bordage contenait ce vertige dont il parle, c'est-à-dire qu'il l'utilisait à travers des citations, des projections dans le futur de certains de ses héros. Alors c'était par touche, mais ça m'a fait des déclics. J'ai imaginé comment finalement tous ces guerriers du silence qu'il a mis en scène allaient par la suite devenir des légendes. Donc ça a été un des premiers éléments qui m'a aidé à construire la suite. Mais évidemment, j'ai voulu me démarquer et il a fallu que je lâche certaines choses où je trouvais qu'il était très fort, mais où je ne pourrais pas l'égaler. Par exemple, sa critique de la religion ou sa critique de la... Enfin, pas de la religion, mais du clergé ou des organes...
De l'appareil religieux.
Sa critique de la société, de la politique, tout ce qui correspond au complot intergalactique, comment se mettent en place les rouages, ce genre de choses. Il y a des domaines où je ne me sentais pas capable de l'égaler, donc j'ai dit, ça je vais l'occulter, ça sera raconté, mais ça ne sera pas vécu par les héros, ce sera en arrière-plan. Et par contre, il faut que j'intensifie certaines choses, et donc je me suis basé sur les choses qui me parlaient le plus à moi, c'est-à-dire la magie, comme tu le dis, le rapport au surnaturel est plus fort, et peut-être aussi Dans le côté initiatique, il y a un côté peut-être plus lâché, quoique j'ai relu des passages des Guerriers du Silence qui sont assez aussi exaltés.
Complètement barré, tu veux dire.
Et alors, comment on sent la jubilation de Johan à s'être emparé de cet univers et l'intensité avec laquelle il l'a fait? Moi, j'ai envie de lui demander si c'est un one-shot, c'est-à-dire une expérience unique, ou si tu es toi-même parti pour un cycle, une tétralogie, une pentalogie.
Alors, il me semblait logique que la suite soit une trilogie, mais je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de matière pour faire 3 livres. J'en sais rien. Pour l'instant, je travaille le 2e tome, et selon les éléments que je vais développer dans le 2e tome, je saurai si j'en fais 3 ou 2.
Oui, de toute façon,
je préfère en faire 2 bien concentrés que...
Je comprends que ta fin appelait une suite, de toute façon.
Hein ?
J'ai cru comprendre que ta fin appelait une suite.
Oui, oui, il faudra un 2e tome, ça c'est un minimum, ça c'est sûr. Par contre, une trilogie, je ne sais pas. Je ne peux pas encore me prononcer sur la question.
Oui, donc le projet est loin d'être clos. Je peux poser des questions qui fâchent un peu. Enfin, on a tous plein de curiosités. Tu n'as pas eu envie de préfacer l'ouvrage de Johan?
Non, parce que... Il n'y aurait pas du tout. Non, c'est parce que je voulais vraiment m'immiscer le moins possible, parce que je voudrais que lui soit considéré comme un auteur à part entière. Même s'il vit mon univers, je pense qu'une préface aurait rajouté au fait qu'on aurait trop identifié son livre au mien, et c'était pas ça le propos. Je pense que le propos, c'est de faire un livre dans l'univers des Guerriers du Silence, mais qui lui soit propre. Et je pensais que la préface était superflue, et de toute façon, je suis très flemmard de faire des préfaces.
Je voulais vous poser une question un petit peu plus juridique aussi, parce qu'on a à peine évoqué la question et que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut protéger un univers? Là, on a bien compris le courant de sympathie et de confiance qui passait entre vous et que la question ne se posait pas, mais elle s'est peut-être posée pour vos éditeurs.
Oui, il y a eu des discussions à ce sujet, à la Talente, à savoir qu'est-ce qu'on acceptait, qu'est-ce qu'on n'acceptait pas, comment... Pour nous, l'édition pourrait s'exprimer, mais il n'a jamais été question d'argent, c'était pas ça qui était important. L'important, c'était le respect des choses. Donc, voilà, c'est tout.
Le droit de veto, peut-être, éventuel? Est-ce que la Talente aurait pu...
Pas un droit de veto sur le texte, mais une intervention éventuellement sur couverture et quatrième de couverture pour bien faire en sorte que le livre du champ premier soit un livre de Johan Bergeau, qui n'est pas par exemple la mention de Pierre Bordache à la couverture, ce qui était à mon avis une erreur, ou à notre avis d'ailleurs, parce qu'on était d'accord avec l'éditeur, parce qu'on aurait trop assimilé tout de suite, et il fallait tout de suite que Johan passe pour être l'auteur et non pas quelqu'un d'autre, quoi. Qu'il n'y ait pas de confusion possible à ce niveau-là.
Qu'on ne prenne pas Johan pour ton nègre.
Oui. Non, c'était même pas question de ça, c'était vraiment une question d'identité. Je pense que c'est son premier livre, que c'est important pour lui que ce premier livre lui apparaisse comme son livre, quoi, et non pas en collaboration avec, parce que si on met le nom d'un autre auteur sur la couverture, il y aura forcément une idée de collaboration, de je ne sais quoi, qui fait qu'on minimisera son travail. C'est vrai que c'est pas question de ça. Voilà. C'est des discussions principalement là-dessus, hein. Sur la taille des caractères, des conneries comme ça, hein. En tout cas pas sur le fond, il n'était pas question d'intervenir sur le fond. À partir du moment où un autre éditeur avait décidé de publier le livre, et qu'il jugeait digne d'être publié, il n'était pas question d'intervenir sur... C'était son travail d'éditeur, c'était pas le nôtre, et il n'était pas question d'intervenir sur le fond du livre.
Oui, là, moi, j'ai été totalement témoin de la chose. Et je suis parfaitement d'accord avec les choix qui ont été faits.
Bon,
parce que ça me paraissait important, effectivement, comme tu dis, que ça n'apparaisse pas comme une collaboration, étant donné que ça n'en était pas une,
oui.
Et que ça me donne un peu une liberté d'auteur. C'est ça, mon premier livre, et non
c'est,
pas...
C'est là où j'ai dit tout à l'heure, enfin, accepter le principe de trahison. Si quelqu'un voit son œuvre adaptée au cinéma et qu'il ne veut pas être trahi, il ne faut pas qu'il aille au cinéma, surtout pas. C'est pas la même façon de raconter, c'est pas le même univers. Donc il y a forcément une trahison, c'est obligé.
Ça se passe souvent mal, hein. Il y a beaucoup d'auteurs qui réagissent très mal face aux adaptations cinématographiques.
Il ne faut pas qu'il y ait d'adaptation de leurs œuvres, parce que sinon, c'est pas possible. Après, moi, on m'a demandé, par exemple, d'adapter Demain des chiens, de Simac, rien que ça. C'est des producteurs français qui avaient le titre. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut faire une adaptation? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Demain les chiens de Simac, c'est 8 contes qui se passent sur 12 000 ans, avec une évolution de comment les chiens remplacent les hommes dans la société, et comment les chiens créent leur propre société. Et le livre tel qu'il est présenté, en plus, Simac utilise tous les thèmes, enfin, c'est le bordel là-dedans, c'est une fourre-tout de la SF, quoi. Enfin,
c'est génial.
Ouais, c'est génial, mais c'est une sorte de grand fourre-tout avec la philosophie martienne et tout le bazar. Adapter ce genre de bouquin en cinéma, c'est obligé de trahir, mais de A à Z. Ce qu'on peut garder, c'est l'esprit. Et c'est ça que je trouvais intéressant dans le livre de Johan, c'est qu'il a gardé l'esprit. C'est ça qui est important. Le reste, la forme, c'est il n'a pas la même façon d'écrire que moi, il a sa propre musique intérieure. Donc, c'est normal qu'il y ait des différences. Il faut accepter ces différences. Sinon, ce serait même pas intéressant pour lui. Quoi. Ce serait que du facsimilé ou de la reproduction, mais ça n'a aucun intérêt. Moi j'accepte tout à fait que l'univers soit complètement différent, que le style, enfin que tout soit différent, et c'est tant mieux. Même si je retrouve, comme je disais, des éléments qui me rappellent l'univers. Quoi.
Bon, ces éléments sont quand même bien présents. Toi qui as fait les deux, Johan, qui a écrit, qui a décrit ton propre univers et qui est en train de travailler sur d'autres projets et qui a eu cette expérience. Comment tu le ressens après coup? Est-ce que c'est une frustration ou une richesse de travailler dans l'univers de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça te contraint ou est-ce que ça t'enrichit?
Alors, il y a une contrainte, c'est évident dans le sens où on doit respecter un décor, un cadre, il faut vraiment qu'on puisse identifier clairement qu'il s'agit d'une, bon, pas forcément d'une suite, mais que ça se passe dans le même cadre. Donc il y a des contraintes, mais ces contraintes justement sont structurantes, c'est-à-dire que ça permet de cadrer son imagination et ça permet de réfléchir. Et après, par exemple, il y a des détails tout simples, mais Pierre parle d'un réseau à un moment donné qu'il appelle le réseau Ronde Lune Rook. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire? Comment je pourrais l'adapter? Et à partir d'un détail, on peut déclencher tout son propre, sa propre imagination et faire quelque chose qui n'a rien à voir, et tout en même temps en gardant des liens avec le passé. Donc finalement, c'est limitant objectivement, mais ça peut être une catapulte, un tremplin pour sa propre création. Donc je pense que c'est un exercice qui est tout aussi intéressant que l'écriture libre. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de conditions dans lesquelles, par exemple, un concours où on fait un appel à texte sur des nouvelles, c'est très stimulant pour l'auteur d'avoir un thème sur lequel travailler, parce que du coup, il limite son champ d'action, et en fait, ça permet de contraindre un peu ce bouillonnement de l'imagination et de lui donner une forme, le canaliser, en fait. Enfin, je ne sais pas si j'étais très clair.
Si. Moi, j'aime beaucoup, parce que c'est un principe oulipien, quasiment, hein, c'est-à-dire écrire sous contrainte. Est un exercice très très intéressant.
C'est le principe des ateliers d'écriture aussi.
Oui, les ateliers d'écriture et des nouvelles, ça les appelle à texte sur les nouvelles et tout. Par exemple, moi qui ne suis pas un novelliste naturel, il faut vraiment qu'on me provoque, qu'on me dise, faut faire un truc sur un dragon ou je sais pas quoi. Et ça me stimule parce que j'aurais pas pensé moi-même, je suis trop con pour y penser. Mais tiens, ouais, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Et tous les sujets sont intéressants. Et de voir comment on peut inscrire son imaginaire dans un sujet imposé, c'est effectivement, ça peut être stimulant, ouais, très très stimulant pour l'intellect.
Ça y est, j'ai perdu le fil de ma question. En vous écoutant, j'avais une question en tête et je suis en train de... Ah oui, on a parlé des univers, on a parlé du rapport à la matière, on a parlé de la magie. Il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est le style. Et moi, en tant que lecteur, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Et j'ai vraiment eu l'impression que là, vous aviez des manières d'écrire fondamentalement différentes. Oui. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Oui. Est-ce que toi, tu as fait un effort pour rentrer aussi dans les traces du style de Pierre?
En termes de style, j'ai vraiment décidé d'appliquer mes méthodes parce que je ne sais pas écrire autrement.
On ne peut pas tricher avec son style, je pense.
Il fallait que j'écrive à ma façon au niveau du langage, hein, au niveau de la maîtrise de la langue. J'ai fait une école journalistique qui m'a formaté à un certain degré. Donc, grâce à mon éditeur, j'ai réussi à en sortir un petit peu. Il m'a aidé à sortir des phrases trop courtes, du côté trop lapidaire en fait, et limite scandé en fait du journalisme. Mais justement, j'ai rattrapé un côté un peu plus littéraire grâce à quelqu'un de la maison d'édition de Mnemos, que je remercie à la fin du livre, qui s'appelle Stéphanie Chabert et qui m'a vraiment beaucoup aidé à lier mes phrases, à rendre ça plus ample, plus fluide. Je pense qu'on est assez similaires par contre en termes de poésie, c'est-à-dire qu'on recherche tous les deux une certaine poésie. Ça c'est un point commun, mais on a une façon de faire les choses qui est radicalement différente. Et je me suis dit, ben, tant mieux, parce que comme ça identifiera bien qu'il y a vraiment deux mondes.
Oui, j'ai remarqué aussi que je suis pas différent des styles, moi aussi je suis sensible au style. Je pense avoir un style très classique finalement, très formaté par le latin, j'ai fait du latin, donc ça donne une certaine rigueur géométrique. J'ai un style, je pense, à rigueur géométrique, qui manque parfois...
D'une certaine sobriété.
Sobriété.
Par rapport à ce qu'écrit Johan, il me semble que la sobriété est plus chez toi. Mais peut-être alors, musicalement.
La sobriété, je ne l'avais pas au début du Game Silence, parce que je ne sais plus quelle critique a dit que je devrais supprimer la moitié de mes adjectifs, ça ferait la moitié du bouquin en moins déjà. Donc je ne sais pas si c'est ça être sobre, mais bon, c'est un peu raté. J'ai gagné en sobriété au fur et à mesure, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne faisais pas assez confiance au lecteur et j'y en donnais trop parce que je me disais, il ne va pas comprendre le pauvre, il n'est pas capable d'imaginer que c'est jaune, alors il faut que je dise que c'est jaune. Je pense avoir progressé là-dessus, le style, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, après, on peut faire les ajouts, les coupures, on peut devenir plus sobre. Le style, c'est, comme je disais tout à l'heure, une musique intérieure. Il n'y a personne qui écrit de la même façon, c'est assez étonnant, mais on n'a pas jamais le même style. Oui, effectivement, la musique de Johan est très très différente de la mienne, et très adaptée à ce qu'il fait, donc c'est parfait. Et là, tu as entièrement raison quand tu dis qu'il faut aller dans le sens qu'on sait faire, parce qu'on ne peut pas s'éloigner de sa musique intérieure, sinon c'est ce qu'on a là, beaucoup de douleur pour rien, quoi. Tout simplement, on n'a pas la même façon d'écrire, il faut l'accepter. Il n'y a pas de style préférable à d'autres, je pense qu'il y a à chacun de trouver, d'approfondir son style, et puis c'est tout. Moi, je recherche ce que tu disais par rapport à la sobriété, c'est... J'emploie plutôt le terme de fluidité. J'essaie de faire en sorte que rien ne vienne distraire la lecture, un lecteur dans sa lecture. Et je pense que quand on fait une faute de style, alors on distrait le lecteur, il va sortir de la lecture sans savoir pourquoi, mais il va sortir. Donc, ce sont des fausses notes dans la mélodie pour moi. Et j'essaie, en tant qu'auteur, d'éliminer au maximum les fausses notes. J'en fais encore, hein. Mais d'essayer d'avoir une sorte de lecture musicale comme ça qui fait que tout ce qui est superflu, tout ce qui est à contre-temps, tout ce qui rompt la lecture soit éliminé. Je ne sais pas si j'arrive, mais c'est là-dedans que je travaille. Mais encore une fois, le style, je suis assez peu sur la phrase courte. J'ai plutôt des phrases longues, bien que je gagne un petit peu en sobriété aussi à ce niveau-là. J'ai pas encore égalé mon modèle proustien, le modèle proustien qui est une phrase de 3 pages. Si j'ai fait ça une fois, normalement j'ai l'habitude, j'ai fait une phrase de 3 pages. Je peux le faire aussi. Bon, ça sert à rien, mais je le fais. Le journaliste m'a dit.
Il y a
des gens qui mettent pas de virgule en plus. Mais moi j'ai eu des virgules. Non, sans point virgule. Point virgule parce que c'est une faiblesse pour moi, pas de virgule. Non. C'est ni un point ni une virgule. J'ai vu une diatribe de Cavana sur anti point virgule. C'est beaucoup de parcimonie pour moi le problème de point virgule. Et le journaliste m'a dit, mais qu'est-ce que vous arrivez, vous avez fait une phrase de 3 pages. J'ai dit, bah oui, je nettoyais l'ordinateur, le coup est parti tout seul. Voilà, bon après, c'est des petites aventures et tout, mais en aucun cas on peut s'éloigner de son style. Je pense que ce serait une erreur.
Mais je trouve ça pas si évident et je trouve ça très intéressant à mettre en regard avec ce qu'on appelle habituellement. Rentrer dans l'univers de quelqu'un en littérature générale, parce que on parle d'écrire à la manière de quelqu'un ou de faire un hommage, mais en général, justement, quand on fait ce type d'exercice, ce qu'on plagie en priorité ou ce qu'on essaie de reproduire, c'est le style. Et est-ce que c'est pas
un exercice particulier
Oui, ou l'hommage. C'est pas l'hommage, qui semble pas si différent. Mais est-ce que c'est pas justement une caractéristique des domaines de l'imaginaire de s'intéresser plus aux univers mis en scène, aux relations
Si. Je pense que dans l'imaginaire, tu as une recherche. L'imaginaire, pour moi, ressort du conte. Donc, on va avoir plus de conteurs que de littérateurs. C'est ce qu'il y a à chercher, c'est plutôt l'efficacité de l'écriture pour décrire un univers. Le style, pour moi, c'est la surface de l'eau. Alors, soit vous la voulez la plus transparente possible pour que le lecteur puisse plonger directement dans le corps du texte qui est ce qui se passe, l'univers, soit on agite la surface et on fait un style. On dit, vous voyez, comme le style, on ne voit plus rien, mais on voit le style. Et je pense qu'on fait partie de la catégorie des gens qui mettent l'écriture au service de l'histoire. Et plus ça va, plus j'essaie. J'ai eu une dispute un jour assez importante avec une dispute littéraire avec des gens à Saint-Malo. Il y avait Jean, il y avait Patrick Fernel, il y avait tout ça. On disait que le style était une affaire d'ego. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas que ce soit l'ego. Je pense que justement le style, c'est je cherche le mot. Quelque chose qui sort de l'inconscient, une émanation de l'inconscient, voilà, plus que quelque chose de l'ego, de volontaire. On n'est pas responsable de son style, c'est plutôt chercher à disparaître dans le style qui me paraît important. C'est-à-dire que c'est un principe du Tao qui dit qu'une fois l'œuvre accomplie, l'auteur s'efface, et c'est exactement ça que je cherche dans l'écriture, c'est m'effacer, c'est-à-dire rien qui vienne s'interposer entre le lecteur et l'histoire, surtout pas l'auteur.
Tout à fait. Je pense que mon style est de toute façon nourri des mêmes racines que celles de Pierre. C'est effectivement tout simplement mon inconscient qui n'est pas le même. C'est effectivement comme il parlait de musique intérieure. Je pense que chaque âme a une note, une tonalité, une vibration spécifique à chacun. Et c'est ça qui fait qu'il y a une différence un petit peu dans la façon de jouer les notes, quoi. Et je pense que voilà, c'était important pour moi de ne pas tenter de copier cette façon de faire. Sinon, ça aurait été, je pense, que j'aurais échoué parce que je ne me le sentais pas. Je n'avais pas envie de. Je voulais quand même garder cette liberté d'intimité entre la façon d'écrire et l'univers intérieur que je voulais transmettre.
Mais ce qui est important, c'est le mot intimité, c'est un mot que j'emploie souvent parce que c'est ce qui fait la relation du lecteur au livre. C'est une relation d'intimité qui est à nulle part. Il n'y a pas d'équivalence. Les gens qui disent oh, je ne peux pas lire parce que je préfère le cinéma, c'est pas ce que tu perds. Quoi, parce que c'est une intimité incroyable qui se passe entre un lecteur et un texte. Et l'auteur, vraiment, c'est celui qui doit s'effacer pour. Surtout ne pas empêcher cette intimité de se créer entre le lecteur et le livre. Voilà, c'est ce que je pense fortement. Et
je vous coupe. Est-ce que vous pensez que la musique fait pas la même chose?
Je suis musicien. Je joue d'un instrument populaire, mais bon. Oui, et c'est marrant parce que ce que vous dites là par rapport à la musique.
Vous parliez de musique intérieure.
Oui, mais même la musique extérieure, du coup, la façon de jouer d'un instrument, c'est jamais la même pour un instrumentiste. C'est étonnant aussi. On a le même instrument, on a la même partition, mais personne ne va jouer de la même façon.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible là. Hein.
Oui, il y a.
Vous parliez par rapport au cinéma où vous êtes quand même passif. Là, vous parlez en tant qu'auteur, vous
oui.
êtes actif.
Oui. Ben, non, c'est ce qui est actif, parce que l'auteur est actif au moment de la rédaction du livre. C'est le lecteur qui devient actif au moment de la lecture. C'est ça qui fait toute la différence avec le cinéma ou l'image, où c'est une forme de terrorisme finalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui vous impose son univers. Je veux dire, si, c'est pour ça que c'est toujours décevant de voir une adaptation de bouquin. C'est que nous, le bouquin nous a suscité notre travail imaginaire, donc avec nos propres filtres inconscients, etc. Et à ce coup, il y a un type qui dit non, mais c'est comme ça qu'il faut voir le truc. Et là, on n'est pas du tout d'accord en général, mais sinon, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma, par ailleurs. Je n'admire pas le cinéma, mais je pense que la richesse du livre est inégalable. Quoi. Enfin, la richesse du texte. Parce que je suppose qu'un conteur, dans l'oralité, c'était pareil, avant c'était l'oralité, et je suppose que ça suscitait le même univers. Quoi. C'est-à-dire, c'est chacun qui s'empare du mot, pour en créer son univers.
Je suis un peu perdu dans vos propos, c'est que vous parlez en tant qu'auteur ou en tant que lecteur
on est les deux.
En tant qu'auteur, moi je me le service d'un livre.
Je vous écoute en tant que l'auteur qui écrit.
Ah, vous êtes auteur.
Je me rends compte que vous êtes en train de parler de
lecteur. Lecteur.
On est peut-être en train de parler de réinterprétation aussi, c'est tout à fait le sujet de la table ronde. On est en train de dire que finalement l'auteur est conscient du fait que le lecteur se réapproprie complètement l'univers et que ça vibre chez lui d'une manière que l'auteur ne maîtrise pas et ne connaît pas complètement et ne cherche pas à maîtriser. Donc si on prend la question sous cet angle, on est dans la continuité avec un autre auteur qui lui-même se réapproprie, réinterprète, reformule.
Oui.
Il y a un continuum.
Mais, je vous entends, vous, Pierre, parler. C'est là que j'ai été perturbé. Parce que moi, je vous écoute en tant qu'auteur.
Ouais.
En fait, je me rends compte, je suis intervenu, mais ce n'était pas de bon escient, parce que vous étiez en train de parler en tant
que. De ce que ressent le lecteur. Le lecteur. Et, c'est pour ça que je disais, moi, le travail d'auteur, en tant qu'auteur, j'essaie de. L'écriture, pour moi, c'est l'interface entre le livre et le lecteur. Il va se baser sur l'écriture pour entrer dans l'univers. Et en tant qu'auteur, j'essaie de m'interdire le fait que mon interface perturbe le lecteur. Donc, ce qui veut dire, quand je disais que l'auteur doit s'effacer pendant l'écriture, c'est que de façon de faire en sorte que rien ne vienne perturber le lecteur dans sa lecture. C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est clair? Non, peut-être pas.
Mais en tout cas, moi, c'est très bien qu'on ait commencé à engager les discussions et je vous encourage à profiter de la circonstance où vous les avez tous les deux devant vous pour vous poser pour leur poser vos questions ou enchaîner sur cette discussion qui peut nous emmener très loin. Mais on n'a plus que 5 minutes, donc si vous avez une ou deux questions importantes à leur adresser. C'est la table ronde d'après les extraterrestres. Non, pas de questions particulières? Oui.
Est-ce que le livre de Johan se lit indépendamment de. Si on n'a pas lu les trois premiers, est-ce qu'on peut lire le.
Vous êtes obligé de les acheter après, vous n'êtes pas obligé de les lire.
Il a été conçu de telle sorte que. Comme j'arrive 20 ans après, hein, à peu près, j'ai fait en sorte que quelqu'un puisse le lire.
Il y a 20 ans après moi, juste.
Hein?
Oui, donc vous l'avez écrit au même âge.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et c'était bizarre parce que t'es publié par.
Donc t'es un bel ami.
Même âge que moi.
C'est vrai. Donc j'ai fait en sorte que ça puisse se lire indépendamment, parce que je me suis dit il y a des gens qui n'auront jamais eu accès au Guerrier du Silence et qui vont peut-être acheter le livre, et je voulais qu'ils puissent comprendre, que ça soit complètement clair. Par contre, ils louperont des références. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont leur échapper. Comme il disait, il parlait du courant de Don Julien. Il y a des petits mythes, des petites choses dont ils n'auront pas les secrets. Mais peut-être justement, ils peuvent faire la démarche de lire celui-là et après de retourner aux sources et de découvrir les mystères du passé.
Et lire Les Guerriers du Silence comme un préquel.
Et j'ai des amis qui n'avaient jamais lu Pierre Bordage, qui ont lu mon livre et qui m'ont dit. Bon, du coup, je vais les lire parce qu'ils veulent savoir maintenant d'où c'est venu.
Bien. Oui, mais je confirme, il se lit de façon indépendante. Et surtout si on est habitué à un lecteur de genre, de science-fiction, tout ça, où on est habitué à avoir des codes et tout ça, où on sait qu'il y a des civilisations qui sont créées, on n'est pas obligé d'avoir ce secret de toutes les civilisations qui sont créées, mais on sait qu'il y a eu tel truc et voilà. Ça apparaît en creux et je pense que les lecteurs de SF, ça, facilement, on s'en va.
On va apporter un moment de réponse ayant lu les cartes. J'ai terminé le chant premier il n'y a pas très longtemps. Effectivement, ça se lit indépendamment, mais je pense que j'ai énormément marqué par les trois guerriers du silence aussi. Ça apporte quelque chose de les avoir lus avant, ne serait-ce que parce qu'ils commencent exactement par la même chose. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est
un effet de résonance. Oui.
Mais ils commencent exactement par la citation d'une même personne. Qui est un personnage mythique, enfin, inventé par M. Bordage. Mais
non, c'est un vrai, il existe, et on a besoin de.
Voilà, c'est le genre de. Il y a des correspondances, et il y a de toute façon un univers tellement riche. Effectivement, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça a commencé, mais quand on le sait, il y a 5000 ans d'histoire. Je crois que c'est ça. Il y a 5000 ans d'histoire. Il y a à peu près 5000 ans entre le début des Guerriers du Silence et le début du Chant premier, il y a à peu près 5000 ans. Donc il y a 5000 ans d'histoire condensée dans votre invention qui se rajoute à l'intrigue. Ce qui pour moi n'est pas du tout négligeable.
Et alors, donc, comme ça se passe beaucoup plus tard, je ne pouvais pas reprendre les héros. Et d'ailleurs, c'était vraiment mon objectif de ne pas reprendre les héros pour créer mes propres héros. Ils les avaient tous tués, en plus.
Au bout de 5000 ans.
Ils ne sont pas revenables parce qu'ils avaient tous tués. Vous avez repris le seul qui était. Donc, j'ai repris les seuls...
Ça devenait des légendes, en fait. Donc, même dans la fin des guerriers, les personnages sont déjà des légendes.
Oui, ils sont déjà des légendes. Et il avait cité la fille d'un tel, un tel. Donc, j'ai repris cette personne et qui est devenue une vieille sage, une vieille sorcière qui, pourtant, était... À peine une fille citée dans un nom. Voilà. Et là, je suis en train de réfléchir. J'ai un artifice littéraire qui pourrait me permettre de réutiliser des personnages de Pierre. Mais je pense que je me tiendrai à des personnages secondaires qui m'ont marqué. Qui sont des personnages qui moi, m'ont considérablement remué en tant que personnage secondaire. Et que j'aimerais réutiliser dans une rencontre avec des. Dans une confrontation avec les héros de cette saga.
Ils sont pas tous morts.
Alors, les héros sont morts, mais les personnages secondaires, non. Et j'ai un artifice où je peux pas révéler encore la clé de ma technique pour les faire réapparaître. Mais c'est de la science-fiction, donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Je te dis qu'il y en a quand même un qui est pas mort.
Ah oui, tout à fait.
Qui a un vrai rôle dans les trois.
Qui a un vrai rôle dans les
trois. Lequel, tu m'en
souviens. Je vous invite à aller continuer la discussion avec eux sous la bulle, parce que je crois qu'on arrive au bout du temps dont on disposait. C'était une belle discussion. Merci à vous deux pour nous avoir tous
racontés. Merci à vous.